démissionne pas. Pensez-vous qu'il doit être destitué ?
Prenons les choses une par une. Je pense qu'il est.
La chef était démocrate à la Chambre des représentants. Nancy Pelosi a elle aussi appelé Andrew Cuomo à démissionner. Les sénateurs de New York, Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand, ont déclaré, je cite, que personne n'était au-dessus des lois et que les New-Yorkais méritaient mieux. Andrew Cuomo, qui a une nouvelle fois nié tout harcèlement sexuel de sa part, quittait ses fonctions. Mais il pourrait faire face à une procédure de destitution dans les prochains jours. Le procureur de New York étudie également la possibilité de poursuites judiciaires. Aki New York, RFI.
Et donc Andrew Cuomo et ses appels à démissionner qui font aussi à rime encore la une de la presse aujourd'hui.
You should resign, Governor Cuomo, titre le New York Times. Démissionner, c'est effectivement la seule option qui lui reste, ajoute l'un, étant donné la gravité des accusations documentées dans l'enquête judiciaire publiée hier mardi. Être une femme dans l'entourage de Cuomo, c'était vivre avec la peur que le bascule à tout moment d'un comportement intime à celui d'intimidant, peut-on lire dans l'enquête de la procureure Laetitia James, citée par le New York Times. C'est un comportement inévitable selon le tabloïd de New York Post, qui suggère également à Andrew Cuomo de démissionner. Les New Yorkais ont besoin d'un gouvernement de confiance honnête et écrit le journal Cuomo, lu à cette hauteur et doit partir, estime le journal.
New York, tout autre chose. Hein. New York, première ville des États-Unis à mettre en place un pass sanitaire pour accéder à l'intérieur des restaurants ou bien des salles de spectacle. Il entrera en vigueur à la mi-août. Pendant ce temps, en Floride, à Rime, là aussi, les cas de Covid repartent à la hausse.
Oui, plus de 50 000 nouveaux cas ces derniers trois jours, selon le Miami Herald, qui parle d'un nouveau record d'hospitalisation. La Floride, qui représente 6% de la population américaine, mais compte plus de 20% des cas de nouvelles infections dans le pays. Selon le Miami Herald, beaucoup de personnes hospitalisées sont jeunes et pas vaccinées. Et face à cette nouvelle flambée du Covid-19, le gouverneur républicain Ron DeSantis a exclu, Michael, toute mesure de restriction sanitaire.
Et dans ce contre-prise, la perspective, en tout cas, de voir des milliers d'Américains jetés à la rue s'éloigne temporairement. En tout cas, les autorités ont annoncé hier soir une du moratoire des expulsions locatives jusqu'au 3 octobre. On termine aux États-Unis ensemble à Rime. Souvenez-vous, l'année dernière, en pleine manifestation Black Lives Matter, un couple d'Américains blancs a pointé leur arme sur des manifestants antiracistes condamnés pour ce geste. Et bien, scié hier par le gouverneur du Missouri.
Oui, la vidéo de ce couple devant leur somptueuse villa était devenue virale, rappelle le Washington Post. Lui pointait son arme en direction du manifestant qui filmait la scène. La femme tenait un pistolet dans sa main et le pointait également en direction du cortège. Les deux avaient plaidé coupables des deux chefs d'accusation, agression pour lui et harcèlement pour elle. Mais comme il avait promis dès le départ, le gouverneur républicain de Missouri les a graciés. Le couple l'a remercié en évoquant une persécution politique, c'est allié dans le Washington Post.
Merci Arim. Vous nous parliez là quelques instants de la Floride, où il y a un peu plus d'un mois s'est effondré un immeuble Surfside. De l'autre côté du détroit, Cuba, où cela fait bien longtemps que les effondrements ne font plus la une, et pourtant, ils sont fréquents, heureusement, rarement avec des conséquences dramatiques, mais tout de même, cela interroge sur l'état du pays, la capacité à faire face à l'impact du changement climatique et à ces manifestations de plus en plus fréquentes. C'est notre dossier du jour, il est signé à la Havane, Domiti Piron.
Sur le mur du Malecón, les façades des immeubles sont rongées par les embruns. Des échafaudages soutiennent plusieurs édifices coloniaux, quand ce n'est pas tout simplement un trou qui laisse deviner un ancien immeuble d'habitation qui s'est effondré et dont les gravats n'ont pas encore été retirés. Ivan Fernandez, un passant qui habite plus loin dans le quartier populaire de Centro Habana, se désole de ce tableau.
Dans n'importe quelle rue où tu marches, il y a un trou au milieu ou un immeuble effondré. Regarde celui-là, dans quel état il est. Je me rappelle, ça s'est produit après de gros. Après cette pluie, le soleil apparaît, tape fort, et c'est là que tout s'effondre.
Les conditions climatiques cubaines, ajoutées au manque d'entretien général, font de la Havane une capitale qui tombe littéralement en ruine. Des effondrements d'immeubles sont presque mensuels et personne ne de l'absence de réaction et d'empathie de la part des autorités cubaines manquant de ça et d'en Floride en juin dernier. Ils seraient bien mal placés pour parler, disent les Cubains. Orlando, un vieil homme, est assis sur le perron de sa maison.
Il y a des effondrements à cause de l'avancée de la mer. Et il y a pas mal d'immeubles qui se sont effondrés ici. Mais on est habitué à vivre et on peut juste espérer qu'il ne nous arrivera rien. De toute façon, contre la nature, tu ne peux rien faire. Si un tsunami arrive, il emporte tout, les immeubles et les personnes.
Les événements climatiques climat sont de plus en plus fréquents. Son voisin Carl Acosta souffre de la puissante tornade qui avait touché la Havane en janvier 2009, faisant 3 morts et des centaines de blessés et de nombreux dégâts matériels.
Lors du dernier cyclone, l'eau est entrée dans toutes les maisons. Il y avait 1 mètre d'eau ici. Jusqu'aux portes, tout le Malecón a été inondé. Par chance, cette année, pour l'instant, il n'y a pas eu de cyclone. Mais quand il y a de fortes tempêtes, tout est inondé, l'eau déborde, le mur du Malecón ne protège pas et l'eau passe par-dessus.
En cas extrême, ils sont bien protégés par l'État et mis à l'abri provisoirement. La porte de la maison de Carlos donne directement sur le front de mer, un endroit idéal qu'il affectionne particulièrement. Mais à l'intérieur, on aperçoit des poutres verticales qui tiennent le plafond. Ce retraité ne se sent pas en sécurité chez lui, il préférerait partir.
Tant qu'on ne peut pas déménager ou que l'État ne nous reloge pas ailleurs, je dois rester parce que je ne vais pas vivre dans la rue. Mais je ne veux pas rester, je n'ai pas envie de risquer ma vie. Quel que soit l'endroit où l'État m'enverra, j'irai. Dans un autre quartier, à Lamar, Boyero, n'importe où, mais un lieu sûr. En attendant, on essaye de survivre et on espère qu'il ne nous arrive rien. Si j'avais de l'argent, je ferais des rénovations et des travaux pour me protéger. Je serais tranquille. On pourrait construire des brise-vagues, par exemple, ou alors je mettrais un mur là, par exemple, pour protéger de l'eau.
Remplition de protection de la côte. Des travaux sont prévus de longue date, mais pour l'instant, rien n'a été repris par manque de moyens. Ces 50 dernières années, le niveau de la mer autour de l'île cubaine a augmenté de 10 cm et les prévisions sont alarmantes. Selon Gloria Gomez-Pais, directrice des ressources naturelles et changements climatiques au ministère des Sciences, Technologies et Environnement.
Dans le scénario actuel, il est prévu qu'en 2030, le niveau de la mer monte de 29,3 cm et pour 2100, 90 cm, soit presque 1 mètre de plus. Donc le pays va devoir s'adapter à ce scénario et aux effets du changement climatique.
Au-delà de la hausse du niveau de la mer, la hausse des températures des océans provoquera des ouragans moins fréquents mais intenses, selon les autorités cubaines, qui travaillent à l'adaptation au changement climatique et à la mitigation de ses effets. Domiti Piron, La Havane, RFI.
À La Havane, 26. Le journal de l'Outre-mer, la première.
Bonjour Mickaël.
En Guadeloupe, l'économie et les secteurs touristiques, hein, surtout, une nouvelle fois frappés de plein fouet par les restrictions sanitaires.
Jeudi soir 20h et pour au moins 3 semaines et déjà 30% d'annulation dans le secteur que si important évidemment pour la Guadeloupe. Bref, nouveau coup dur, coup de bambou ou coup de grâce, on ne sait plus très bien quelle expression employer. Écoutez le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, Patrick Vialcollet. Il a été joint par Chantal Horn.
Nous essayons de sécuriser la clientèle. La restauration est ouverte. Je rappelle que, bien sûr, on a ce couvre-feu à 20h, 10 km maximum, donc ça contraint. Mais vous avez des clients. Est-ce que je serais mieux à rentrer chez moi précipitamment ou est-ce que je finis mon séjour différemment? C'est triste pour ceux qui aiment la Guadeloupe parce que vous savez que notre destination, l'île de Guadeloupe, est une destination de découverte et que les gens ne restent pas dans les hôtels. Ils aiment au Sainte, à Marie-Galante, à la Désirade, visiter notre Guadeloupe et notre Guadeloupe profonde. Donc c'est un coup, mais pour l'instant on essaye de, comme on dit, de calmer le jeu. Les compagnies aériennes vont devoir voler à vide quasiment pour venir chez les clients qui souhaitent rentrer. Donc ça va être extrêmement difficile et seul l'aide du gouvernement va permettre d'éviter les faillites des compagnies aériennes. Si en plus la décennie n'est plus en place comme elle doit l'être, le redémarrage économique de notre industrie touristique est impossible.
Direction maintenant l'île sœur, la Martinique. Belle déborde, rien à voir avec l'épidémie pour une fois. Non, il s'agit de la conséquence d'une grève éboueur, une grève qui dure le 15 juillet dernier. Jean-Baptiste Anatole.
Le 15 août prochain, il y aura 1 mois que les salariés du SMTVD sont en grève. Un mouvement qui ne semble pas gêner les décideurs du département. Pendant ce temps, la population vit au milieu des poubelles non ramassées, des rats, des cafards, des chiens errants et des odeurs qui envahissent les maisons. Une lueur d'espoir, un médiateur sera Hervé Diony, secrétaire général de l'USAM.
Nos élus ne se préoccupent pas du tout de ce il y en a qui s'en fichent. Hein. On n'a pas revu le président dire qu'il quittait la table des négociations.
La prochaine nomination de médiateur dans ce conflit fera peut-être jaillir la lumière. Chaque année, SMTV est en grève.
Le SMTVD, c'est le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets. Bon après-midi, Mickaël.
Merci beaucoup de la première. Ainsi s'achève notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques que vous pouvez bien sûr retrouver sur RFI Po. L'actualité des Amériques à commenter sur Facebook, le journal d'Haïti des Amériques, sur Twitter avec l'arrobase RFI Amérique. Très bonne journée à tous sur Radio du Monde.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge et pleure sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Aujourd'hui,
pourquoi faire l'astronomie de l'étrange, des objets les plus bizarres, des astronomes les plus singuliers et des théories astronomiques les plus sidérantes?
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Du lundi au mercredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Née à Bandagui, Abdallah n'a jamais oublié son pays en feu. Installée aujourd'hui en France, elle revient sur ses années terribles dans un premier roman bouleversant intitulé « Mauvaises herbes » où elle imagine un dialogue entre un père et sa fille.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vie à partir de 13h30 TU.
RFI.
De la bande passante, Alain Pilot, Cécile Bonici.
J'ai commencé par le théâtre en Angleterre quand j'avais 17 ans. C'était un rôle sur muet. J'y étais pour passer l'examen parce que ma mère était une actrice et connaissait le directeur de théâtre. Il a dit surtout pas aller dans une école de théâtre parce que vous êtes assez fragile et vous pouvez sortir avec rien du tout. Alors il a